Le chaînon manquant, du 17 au 22 septembre, 74 spectacles, 33e édition. L'inauguration, c'est ce mercredi et c'est en direct, bien sûr, sur l'autre radio, de 19h à 20h.
19h0, émission directe du Festival Le Chaînon Manquant, ici au Square de Boston à Laval. Amis auditeurs, j'espère que vous êtes confortablement installés pour découvrir un petit peu cette programmation pendant 5 jours de tous ces spectacles qui vont se dérouler ici sur la ville de Laval. On a l'habitude évidemment du Chaînon Manquant au mois de septembre, événement incontournable pour les Lavalois et les Lavaloises, et puis bien plus que ça pour l'ensemble des Mayennais qui viennent de tout le département voir les spectacles. Et puis c'est aussi un festival un petit peu à part, c'est un festival aussi de programmateurs, et donc on a, je crois, 250, 300, pour en parler tout à l'heure avec Kevin Douvier, qui est le programmateur de ce festival, de savoir un petit peu combien de professionnels sont là cette semaine. Je suis accompagné de Stéphane. Salut Stéphane.
Salut François, ça va?
Ça va, va ouais.
Oui, écoute,
un plaisir de te retrouver ici au festival, comme,
moi aussi.
Comme tous les ans.
Oui.
On n'était pas là l'année dernière.
Non. Bah, on a du coup donné le relais à l'équipe B.
Oui, c'est ça.
Mais voilà. On est de retour.
Et en fait, il y a eu beaucoup de messages sur les réseaux pour dire quand est-ce qu'ils reviennent.
On a besoin que ce soit eux qui animent.
Donc voilà, sous le plébiscite en fait du public. On n'a pas hésité à accepter cette nouvelle invitation de l'autre radio. Et puis on a Margot, la technique, donc il n'y aura pas de soucis ce soir, ça va être fabuleux.
Salut Margot.
Avec Margot, tout roule comme d'habitude. Alors on va faire le tour d'horizon un petit peu de ces spectacles. On va recevoir des compagnies aussi, on a la chance d'avoir des compagnies qui vont nous rejoindre ce soir. On aura 3 compagnies. Alors on aura bien sûr Kevin avec nous au tout début pour faire un petit peu ce tour d'horizon du festival. Et ensuite on aura 3 compagnies qui vont nous rejoindre. Alors on aura Stéphane, je te laisse
alors,
les présenter.
On aura Marie Fortuit avec La vie en vrai, avec Anne Sylvestre.
Voilà, en fait, Sylvestre, chanteuse des années 60-70.
Ouais, c'est ça.
Voilà, chanteuse pour enfants, mais personnage engagé, enfin personne engagée. On ira un petit peu plus loin pour découvrir tout ça et cette rencontre.
Donc Marie, elle a choisi dans son répertoire une douzaine de chansons qu'elle donne lors de ce spectacle. Alors elle nous expliquera. Ensuite, on aura Jérôme Marin pour la Barbichette Cabaret. Donc quelqu'un, Jérôme, qui a traîné sa bosse dans les cabarets et qui a fini par créer son propre cabaret. Donc il nous expliquera tout ça aussi.
Ouais.
Et on aura Hugues Duchesne pour l'abolition des privilèges, parce qu'il est quand même temps. Il faudrait qu'on réussisse à les abolir, ces privilèges. Donc il viendra nous expliquer certainement comment on peut faire, puisqu'il y a un précédent, il y a une expérience qui a été tentée en 1700... quelque chose comme ça. Je pense qu'il est temps là maintenant que bon.
Il y a une belle histoire derrière cette compagnie, qu'on va découvrir. Il y a une petite histoire de livre. Enfin, on n'en dit pas plus.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Amis auditeurs, vous allez découvrir cette histoire absolument merveilleuse qu'on découvrira en fin d'émission. Et puis nous clôturons vers 20 ans. On est une heure ensemble pour faire petit peu tout le panel de ce festival et toute la programmation qui a lieu. Et donc voilà, on rappelle, c'est dit dans le jingle, je sais plus, c'est une soixantaine de spectacles en fait programmés sur l'ensemble des.
Et c'est jusqu'à dimanche.
Jusqu'à dimanche. Alors, on rappelle, il y a bien sûr cette partie professionnelle qu'on retrouve plus facilement sur la semaine, et puis voilà, un petit peu tous ces spectacles qui sont là, parce que les comédiens, les artistes viennent aussi vendre leurs spectacles ici au festival Le Chaînon Manquant. Puis après, il y a tout ce qui est ouvert un petit peu pour le grand public, on ira sur le week-end, où là, du coup, effectivement, on a sur un festival un peu plus familial, et donc du coup, on retrouve toutes les familles qui. Avec des spectacles.
Il est conseillé de réserver en fait.
Ouais, alors
parce
par
que
contre,
si
ça
on se pointe comme ça, c'est pas sûr qu'il y ait.
C'est très compliqué. Non, il faut absolument réserver.
Ici, là, sur le village, il y a une billetterie.
Sur la gauche, quand on arrive. En fait, Square de Boston, pour ceux qui connaissent, sur la gauche, on arrive, il y a une billetterie, tout est installé. En fait, tout est fait pour que vous puissiez avoir l'ensemble des infos pour passer un bon festival.
Et si jamais il y a un peu de monde à la billetterie, un peu de queue et tout, il y a un bar.
Ouais. Voilà, exactement. On peut venir profiter de boire un verre tranquillement en famille, il y a tout ce qu'il faut.
Alors nous, du coup, on est installés dans ce bar, donc si vous voulez venir nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir.
Ah bah avec grand plaisir.
Au Square de
Boston. Pour ceux qui passent, on offre un petit autocollant de notre radio.
Et on
accepte une petite photo devant le petit panneau, là, avec nous deux.
On fait des selfies.
Bah oui, on accepte. Ça va être un grand plaisir. Pour notre retour, on fera des selfies avec vous, amis auditeurs. Si vous nous rejoignez, sans problème. On se fait...
Eh bah, écoute, on va s'écouter alors un petit titre. Alors... Là, Margot, elle nous a préparé, c'est exceptionnel, que des titres programmés au chaînon, en fait.
C'est ça, exactement.
Donc, on va le prendre dans l'ordre.
On part sur du local.
Alors, donc, ce sera programmé dimanche 22 à 19h10.
Oui.
C'est Ferdinand.
On ne présente plus sur l'autre radio, Ferdinand.
C'est pour le temps qui reste. Alors, lui, il n'en restera pas beaucoup parce que ça finit dimanche le festival. mais c'est lui qui termine, donc voilà... Le duo local Ferdinand brûle de feu ardent et contagieux, enchevêtrant introspection intime et constats sociétaux. Il dit non au cynisme et à l'individualisme, ambiant gardant.
Cheville au corps.
Pardon. L'espoir des lendemains meilleurs.
Alors, vous allez voir la voix. Elle est absolument fabuleuse.
Voilà. Eh ben, on écoute, c'est Ferdinand, c'est tout de suite.
C'est maintenant.
Si je démarre en trompe, ça suivra. Est-ce que ça suivra? Si je prends pas garde, je prends pas garde, ça suivra. Est-ce que ça suivra? Chut, top, balance, avance. Focus de A à Z, tu poses. Moteur zéro, moteur zéro. Tu te retrouves là sans choix. Personne qui t'attend, personne pour toi. Mais t'excelles, oui t'excelles. Parenthèse, support, musique. Mais t'excelles, oui t'excelles. Parenthèse, support, musique. Parenthèse, laissant s'éveiller. Et t'auras juste le temps. T'auras juste le temps. T'auras juste le temps. Juste le temps. Drive. Tais-toi et drive. Et drive. Et drive. C'est toi qui drive. Conduis-toi bien. Le temps qui reste. Le temps qui reste. C'est là que ça part. C'est là que ça part. Les mecs arrivent. Furie, siège écrasé. Pédale appuyée, moteur accélère. Gauche, droit, embraye, accélère. Frein, accélère, pleine balle. Dérape. Pied gauche, droit. Pied gauche, droit, accélère. Frein, lâche tout, lâche, relâche. Tel guide de tous ces packs. Branleur expressément énervé. Qui part franchement en vrille. Drive, tais-toi et drive. Et drive, et drive. C'est toi qui drive. Conduis-toi bien. Le temps qui reste. Le temps qui reste. Drive, tais-toi et drive. Et drive, et drive. C'est toi qui drive. Conduis-toi bien. Le temps qui reste. Le temps qui reste. Sur ta gauche, la route. Défile, 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 défile. Sur ta droite, tu poses, tu déposes. Et tu te casses. Dans l'oreille ça glisse, dans l'oreille ça glisse. Musique de platane. Tu dis que le deal est comblé. Il est pas loin de s'achever. Mais t'espères, oui t'espères. Que bientôt ce sera rideau, repos, rideau. Repos, zéro.
De retour ici au Chaînon Manquant, ami auditeur. Et comme promis, on va pouvoir parler de cette programmation avec ceux qui la font, ceux qui font un petit peu le quotidien du Chaînon Manquant. On a la chance d'avoir donc Émile Douillet qui est avec nous, qui vient d'arriver, co-directeur et responsable artistique et animation du réseau. Et Florence Niesuta, co-directrice, responsable administration et financière. Merci à tous les deux d'être avec nous.
Merci.
Vous étiez dans la chenille hier soir, dans les 500 personnes qui ont été sur la scène du théâtre.
Non, moi j'ai filmé la chenille.
T'as
parce
filmé
que moi, ouais, parce que j'ai déjà fait en fait cette chenille.
Bah oui, j'imagine.
Donc, je me suis dit, j'avais trop envie de la filmer et j'ai des supers images des 500 personnes sur sur le plateau.
Mais on en parle, ça tourne sur les réseaux là, et en fait ouais. On en a parlé moi cet après-midi.
Bah, c'est mes images.
D'accord. Ah,
j'aimerais toucher de l'argent là-dessus.
Bah écoute, moi t'en toucherais pas mal parce qu'a priori ça tourne
copyright
pas mal.
Copyright Kevin De Villiers.
Bon, comme d'habitude, on se retrouve ici pour faire un petit peu le tour d'horizon. On est mercredi, c'est le début, même ça a commencé hier, mais c'est le début de ce festival. 5 jours ici sur Laval, toujours dans cet ancrage mayennais. Comment ça va tous les deux au début de ce festival? Ça va toujours? Ouais.
Ah oui, bah, on est ravis en fait tous les ans. C'est vraiment une espèce de grande fête. C'est un peu l'objectif de notre année, ce festival, c'est le moment où on rencontre déjà tous nos adhérents qui sont ici. Alors, on voit quand même 74 spectacles, donc il y a énormément de compagnies. Et surtout, on est à la rencontre de tous les Lavallois qui passent, de nos bénévoles. Enfin, on est un peu une grande famille, quoi, et on est content tous les ans de se retrouver comme ça.
Alors, justement, on parle de Lavallois. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes sur Laval?
Bah écoute, c'est la 13e édition, je crois. Ouais, la 13e édition.
Est-ce qu'on peut rappeler rapidement, Kevin, aux auditeurs qui nous écoutent, un peu le principe du Chaînon Manquant avec Région en scène, un petit peu comment ça fonctionne en quelques mots?
Oui, bien sûr. Le Chaînon Manquant, c'est d'abord un réseau de 400 salles de spectacle. 400 salles de spectacle qui vont s'associer pour, d'un côté, repérer des projets sur leur territoire, permettre à des artistes qui n'arrivent pas à dépasser la frontière de leur département, de leur région, d'avoir une visibilité d'abord régionale, c'est les régions en scène, une présélection régionale, et ensuite nationale avec le Chaînon Manquant. Et ensuite, on ne s'arrête pas là, on présente les 74 spectacles sélectionnés ensemble durant 6 jours à Laval, mais après, derrière, on va monter des tournées. Dans un mois, avec une collègue, on a une douzaine de réunions de tournées, et puis là, projet par projet, on va récupérer les intérêts des uns et des autres, et on va monter des tournées, région par région, de manière extrêmement... avec une cohérence géographique, une cohérence aussi économique. Et voilà, et tout ça, sur les 70 spectacles qu'on présente chaque année, on génère entre autour de 1200 représentations officielles et officieuses autour de 1500-1600.
Ça veut dire qu'au départ, les compagnies doivent s'inscrire à quelque chose ou...
Non, en fait, il y a un repérage. En fait, simplement, nos adhérents, ils font leur taf de repéreurs sur leur territoire. Et ils se tiennent au courant de ce qui se crée autour de chez eux. C'est leur rôle d'accompagner les créateurs qui sont sur leur territoire. Et à un moment donné, ils disent, j'en ai un qui vaut vraiment le coup. Il appelle 2-3 collègues qui viennent voir. Ouais, t'as raison, putain, on va le présenter au régional. On présente au régional, moi, je le vois, je dis, wow, ouais, c'est très bon, ça. Et puis, on le met au national, et là, il est vu. Nationalement, il va tourner, puis il y a même des délégations internationales qui vont dire oh, ça c'est vachement bien, on va le mettre à rideau.
Bon, je fais pas c'était l'accent canadien.
Ah, désolé. Ouais,
merci de
préciser. Ah non, c'était belge. C'était belge.
Ah oui, on a reconnu belge.
Non, rideau.
Oui, oui,
belge.
Non, on sait que ça, c'est important pour ces artistes qui sont présents sur le festival de Chaînon Manquant parce que c'est une visibilité. Parce qu'on sait qu'il y a combien, 300-350 professionnels.
Acheteurs.
Ouais. C'est ça, on parle d'acheteurs qui viennent faire un peu leur marché. Ouais. On peut parler de
moi, j'ai pas trop honte de dire que c'est un peu le Rungis du spectacle vivant. Je suis désolé, hein, mais moi, Rungis, c'est mythique. Enfin, moi, Rungis, ça fait rêver.
Ouais.
Enfin, je sais pas si vous êtes déjà à Rungis, mais c'est fou, ça fait rêver un peu tout le monde. Bah, je trouve que. On est un peu le Rungis du spectacle vivant.
Donc il y a cette pression-là, en tout cas, il y a cette volonté du coup de se vendre et donc du coup de plaire et de pouvoir après tourner. Donc du coup, il y a un enjeu, c'est un festival aussi enjeu pour les artistes.
Oui, c'est ça, c'est un tremplin. C'est-à-dire que vraiment, on est dans la tradition du repérage. Et en fait, c'est des compagnies qui ont déjà quand même une notoriété régionale. Faut quand même, c'est pas des compagnies toutes jeunes, forcément. Mmh. On n'est pas sur des sorties de résidence, on n'est pas sur de l'accompagnement à la création. On est bien sur des compagnies qui ont des spectacles clés en main, qui sont déjà bien ficelés. Par contre, ça leur permet de passer à l'étape nationale, voire internationale. Et donc, on est vraiment sur un tremplin. Et logiquement, une fois qu'ils sont passés par le Chaînon, ils n'ont plus besoin de nous. Et ils ont toute la célébrité et le succès qu'ils méritent.
C'est pour ça qu'on reprogramme assez peu en fait des artistes qui sont passés par le Chaînon. On estime que la connexion elle a été faite, et que maintenant ils sont en direct avec nos adhérents et ils continuent leur chemin seuls.
Par rapport à d'autres festivals comme Avignon ou Aurillac ou Chalon, c'est complémentaire ou c'est complètement autre chose en fait
Très bonne question.
Très bonne question.
Très bonne question. Non,
alors, j'ai fait ma soirée. Merci. Alors,
c'est complémentaire. Alors, bon, si on prend Chalon par exemple et Aurillac, c'est essentiellement quand même des spectacles de rue et des spectacles faits et pensés pour la rue. Nous, nos adhérents sont essentiellement des salles de spectacle. Après, il y a des. Ça se performe. Nous, on fait un peu de rue. Il y a des spectacles qui font un peu les deux. Donc, pour moi, c'est un endroit de repérage. Je vais à Aurillac. Mais c'est un petit endroit de repérage pour moi. J'adore, hein, mais c'est... Avignon. Je dirais qu'il y a même une forme de concurrence. Alors, pas surtout parce que nous, on est pluridisciplinaire. À Avignon, oui, il y a pluridisciplinaire, mais sur 5500 présentations, il y a 1400 projets théâtre et un petit peu de cirque, trois chansons. Et donc bon, nous, il y a un vrai équilibre un peu des disciplines. Et puis, effectivement, je pense que dans la tête des artistes et des boîtes de prod, de compagnies, ils réfléchissent à faire soit Avignon, soit le Chaînon. Et la différence principale, c'est que s'ils font le Chaînon, ils perdront pas d'argent. Et s'ils font Avignon, il faut investir 50 000 ou plus dans cette histoire.
Et puis nous, on défend des valeurs qui sont quand même des valeurs très fortes de coopération. Il n'y a pas beaucoup de réseaux de programmateurs qui mettent leur programmation en commun.
Ouais.
Ça n'existe pas, ça, normalement. Les programmateurs ont plutôt cherchent l'exclusivité.
On est d'accord.
Ou la pépite, etc., etc. Donc on est quand même l'un des rares réseaux où on a des programmateurs qui arrivent, qui mettent en commun leur repérage, qui en discutent et qui s'échangent leurs propositions.
Ouais, ça évolue aussi par rapport au territoire. Je vois, par exemple, à Laval, entre Laval, Loiron, Château-Gontier, Ernée, tout ça, ils font aussi, ils jouent cette carte-là aussi.
Oui, complètement.
Complètement. Et en même temps, quand ils ont un coup de cœur sur un projet, que l'autre qui a 15 bandes le fasse, c'est pas grave.
Ouais.
Alors que il y a 5-10 ans, c'était pas le cas. C'était maintenant, on est un peu plus détendu là-dessus et c'est bon.
Ouais.
J'ai vu une petite scène là, sur le village. C'est nouveau cette scène
Ouais, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. On avait déjà le chapiteau l'année dernière.
Ouais, c'est une petite scène qui est dans la programmation.
Alors oui, il y a quelques éléments de programmation, notamment les artistes canadiens qu'on fait jouer plusieurs fois parce qu'ils viennent de tellement loin qu'on a envie qu'ils aient le maximum de visibilité. En fait, on va la tester. L'idée est effectivement de pouvoir la développer d'année en année, d'avoir des petits showcases de musique sur des moments un peu précis d'apéro, peut-être le midi ou autre, etc. Et c'est une phase un peu d'expérimentation et on va avoir 2-3 concerts. Le DJ set, en fait, des allumés du bidon qui vont s'installer là-bas. On aura aussi sur le parquet happening en fait, du conservatoire, notamment le Dance All Ground. Voilà, il y aura différentes choses. C'est un peu expérimental encore pour nous cette année. Et si ça marche, l'idée, c'est de le développer un peu l'année prochaine.
Parce qu'en fait, je disais à François tout à l'heure, ça doit être le off qui démarre.
Oui, c'est ça. Non, mais ça, en tout cas, un lieu d'animation. On veut toujours que le square soit le cœur battant du festival. Ouais. C'est-à-dire que tout part de là, tant notre billetterie que nos publics qui se croisent ici. Enfin, on essaye vraiment de mélanger ça. Et donc, c'est aussi un lieu nouveau d'animation.
Et ça fait du bien de le voir ouvert complètement.
Complètement, ouais. C'est ça. On est ouvert sur la ville, ouvert à tous.
Ouais, puis c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que Carapace, c'est une initiative mayennaise. Enfin, c'est une association mayennaise. C'est une scène qui a été faite et construite ici et exploitée ici. Il y a les allumés du bidon. C'est-à-dire que cette année, pour la première année, on confie le bar en fait, à une association qui est les allumés du bidon qui vont exploiter le bar pour financer leur festival, le festival Pan. Donc voilà, on essaie de mailler un peu tout ça parce que nous, en fait, exploiter le bar, en fait, c'était plus qu'une galère qu'autre chose, quoi. Et on est ultra content de le confier à des gens qui savent le faire et qui vont pouvoir en tirer profit.
On parlait de cet ancrage local, les bénévoles aussi qui sont très présents et qui accompagnent ce festival.
Ah, complètement, on a, je dirais, une armée de 250 bénévoles qui tous les ans reviennent. Et là, c'est assez chouette parce qu'il y a un renouvellement aussi, c'est-à-dire qu'on a... On a des bénévoles qui ramènent leurs copains ou on a des jeunes qui viennent s'inscrire, etc. Et ça, c'est très réconfortant parce que c'est pas forcément évident d'avoir une légitimité, d'avoir un ancrage local quand on existe 6 jours par an.
Bah ouais, on est bien d'accord.
Et en fait, on a une tribu hyper fidèle de bénévoles qui sont vraiment très précieux et sans eux, il n'y aurait pas de festival. Clairement, on n'aurait absolument pas les moyens de pallier ça. Il y a 5000 heures de bénévolat. Je veux dire, c'est impossible de faire un festival sans eux.
Ouais, puis ils reviennent quoi. Ils reviennent
ouais,
déjà, c'est juste
hallucinant.
On construit
ça,
c'est une espèce de communauté. Enfin, tu vois, là aussi, c'est une espèce de famille. Et dire, alors, ton fils, il est en 5e.
Ouais, ils savent des choses entre eux.
Non, mais c'est ça. En fait, il y a vraiment, vraiment cette image de compagnonnage et de famille fonctionne assez bien sur chez nous. C'est ce qui fait quand même qu'il y a une ambiance très particulière sur ce festival.
Dernière petite question, parce qu'après on va enchaîner avec des compagnies qui vont venir nous rencontrer.
Avec des gens sérieux. Avec des gens
exactement. Ouais. Non. Vous qui voyez plein de spectacles à l'année, j'imagine, on va pas donner des chiffres. Est-ce que vous voyez une transformation par rapport à l'ambiance politique un petit peu actuelle, par rapport à depuis 2-3 ans des choses qui sont un peu compliquées, notamment au niveau culturel ou autre? Est-ce que vous voyez que les comédiens s'engagent plus, ou alors justement au contraire sont des spectacles un peu plus légers, ou alors est-ce qu'on va à un engagement politique d'ailleurs un peu plus avec des messages portés par les artistes?
C'est cette dernière question que tu as choisie, t'es vraiment chiant. On va faire toute l'émission, tu peux annuler tous tes invités parce que... Non mais... En quelques mots, de toute façon, les artistes sont les réceptacles de phénomènes de société. Donc on a eu des spectacles autour de la crise migratoire, il y a énormément de spectacles autour du genre, de la remise en question du genre, beaucoup de spectacles, et c'est légitime, autour de la liberté de la femme et des droits de la femme en fait, et de la place de la femme dans la société. Par rapport à la politique, c'est plus prégnant. Moi ce que je ressens, et cette édition je pense qu'elle est assez symptomatique de ça, je crois que c'est une envie de s'en détacher aussi. Il y a plus de spectacles sans parole. Parce que je crois que la parole, elle est compliquée. Enfin, pour le coup, c'est mon interprétation personnelle. Mmh. Je trouve que la parole qui circule, en fait, sur les réseaux sociaux, dans les médias, les machins, etc., elle fait peur maintenant, la parole. Parce qu'on peut dire tout et son contraire, ça n'a plus de valeur. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de spectacles, notamment de danse. On a beaucoup plus de spectacles de danse. On a des spectacles qui sont beaucoup plus percutants, mais sans la parole, parce qu'on veut s'en détacher. Et après, justement, il y a l'abolition des privilèges qui jouait là tout à l'heure et qui rejoue tout à l'heure à 21h. C'est eux que je suis allé voir à l'instant. Ils sont incroyables. Et là, c'est un spectacle qui parle vraiment de politique et de cette politique. Mais en parlant de la politique d'il y a 250 ans.
On est bien d'accord.
Et c'est juste waouh. Ouais. Et on avait 14 aussi qui jouaient aujourd'hui. 14, c'est une fable macabre où on parle de comment la Première Guerre mondiale est arrivée. Bon bah voilà, quand ils décrivent l'histoire, tu dis mais c'est exactement ce qu'on est en train de vivre et ça fait flipper. Et donc je pense que l'engagement il est ici. Il n'est pas forcément direct, il est détourné, mais il est beaucoup plus percutant.
Ok, merci Kevin, merci Florence en tout cas d'être avec nous.
Avec plaisir.
Et puis à bientôt.
Merci à vous d'être partenaire.
Merci.
On se fait une petite pause musicale.
Oui, avec Alphonse Bisaillon.
Eh ben c'est parti.
Comme des joueurs de tennis, il est originaire du Québec, Alphonse, et il jouera vendredi à 20h30 au Village.
À tout de suite, amis auditeurs. À tout de suite.
À tout de suite.
De retour ici au Square de Boston à Laval pour le festival Le Chaînon Manquant. Amis auditeurs, j'espère que vous passez une agréable soirée et qu'on vous fait un petit peu découvrir cette ambiance du Chaînon qui s'installe et qui monte petit à petit dans la ville.
Mais ouais, c'est ça. Et même ici dans le bar, il y a de plus en plus de monde.
Plus en plus de bruit aussi. Voilà. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Marie Fortuné et Lucie Sainte-Seine qui nous présente le spectacle La vie en vrai avec Anne Sylvestre. C'est ça. Ça, c'est important de préciser, j'imagine. Très rapidement, pouvez-vous nous présenter ce spectacle et en quelques mots, le spectacle.
Oui, c'est un spectacle qui mêle vraiment théâtre et musique, qui a à cœur de à la fois rendre hommage à Anne Sylvestre et à sa poésie, la beauté de ses textes et de ses mélodies, mais aussi de mêler nos voix à nous, à toutes les deux, Lucie et moi. C'est un spectacle qui est construit donc avec des textes qu'on a écrits, que j'ai écrits, et aussi mêlés avec les chansons d'Anne Sylvestre et aussi des textes d'Isabelle Sorrent du Complexe de la Sorcière. Voilà, c'est vraiment l'idée de faire vivre une constellation de femmes, mais avec Anne Sylvestre comme phare dans la nuit qui nous porte.
Mais comment s'est passée cette rencontre avec Anne Sylvestre, avec ses textes, avec est-ce qu'il y a eu un moment
Alors moi, je connaissais pas les Fabulettes, je connaissais pas ces chansons pour enfants, mais j'ai découvert ces textes pour adultes quand j'avais 20 ans, et ça m'a beaucoup porté, ça m'a beaucoup aidé. C'est un peu comme une bande-son de ma vie, j'allais dire, et au moment de sa disparition, j'ai eu à cœur en fait, de replonger dans son œuvre de retraverser voilà, ses combats, ses textes, ses mélodies, et d'en faire un spectacle. C'est vraiment au moment de sa disparition en novembre 2020 que l'idée de ce spectacle a germé.
D'accord, donc sa disparition, et là vous vous dites qu'il faut faire quelque chose, et vous replongez dans ses textes. Le spectacle a été terminé quand? Enfin, à quelle date à peu près?
Le spectacle a été créé en 2021, et on a joué ensuite avec Lucie Sansen au Festival d'Avignon l'année dernière, donc en 2023.
Alors la rencontre avec Anne Sylvestre, c'est vous Marie, c'est ça?
Oui.
Et après du coup vous travaillez déjà avec Lucie, comment ça
non,
se passait?
Non, j'ai vraiment rencontré Lucie pour ce projet.
D'accord.
Je cherchais une pianiste et chanteuse et puis aussi une complice de scène, mais je pouvais pas rêver de rencontrer une meilleure personne pour ce spectacle.
Et pareil pour moi.
Comment s'est passée cette rencontre justement? Enfin, vous me connaissiez avant ou déjà des projets? Non, du tout. C'était vraiment...
Non, en fait, c'est un ami en commun qui m'avait entendu en concert, qui avait rencontré Marie lors d'un festival, qui Marie lui avait parlé de ce projet et voilà, de sa recherche d'une personne avec qui portait ce spectacle. Et voilà, et on s'est rencontrés. En fait, très vite, on a senti qu'on a envie de travailler ensemble. Et voilà, et le festival d'Avignon est arrivé assez rapidement. On a beaucoup travaillé ensemble, beaucoup partagé, cherché, et c'était passionnant.
Alors, juste, vous aviez des projets solo avant
En fait, moi, j'avais déjà un projet autour des chansons d'Anne Sylvestre, mais avec un autre pianiste. Et ensuite, le projet, j'avais envie de le faire évoluer, de le faire grandir, d'aller à Avignon avec. Et donc, c'est pour ça que j'ai rencontré Lucie, en fait. Mais sinon, oui, j'ai d'autres projets en tant que metteuse en scène.
Et du coup, le fait de rencontrer...
Lucie,
est-ce que ça a fait évoluer le spectacle?
Oui, ouais. Tout à fait, bien sûr. Ça a fait complètement
les
évoluer.
Les textes, les chansons, d'autres chansons.
Les textes, les chansons, le fil aussi plus féministe qui est maintenant dans le spectacle, parce que c'était évidemment un grand défi de choisir en fait les chansons d'Anne Sylvestre, il y en a tellement. Et en fait, avec Lucie, on a vraiment construit voilà, un fil aussi de ces chansons qu'elle a écrites pour les femmes. Et c'est ce fil féministe qu'on tire tout au long du spectacle.
D'ailleurs, faudrait qu'on lève un doute, parce qu'on n'est pas d'accord tous les deux. Parce que moi, je parle de 300 chansons et François de 600.
Alors, 720 chansons.
Alors, tu vois, j'étais pas...
On a tranché.
Alors justement, il y a un truc, je voudrais que Marie, vous avez fait cette rencontre avec Anne Sylvestre, son monde, enfin voilà. Et par contre, Lucie, Anne Sylvestre, au départ, pour vous, c'est... Fin...
Alors moi, c'est pareil. Vraiment, point commun avec Marie, je ne connaissais pas ces fabulettes, pas okay. du tout. Je connaissais quelques chansons phares quand même, Les gens qui doutent, Une sorcière comme les autres. Et au fur et à mesure, au moment de sa disparition, et puis ensuite, évidemment, avec le travail avec Marie, où là, ça a été l'occasion d'une plongée passionnante dans son répertoire immense.
Alors, c'est un véritable... Vous voulez mettre en avant l'héritage qu'a laissé en fait Anne Sylvestre, c'est un peu ça, ce côté politique, parce que le personnage engagé, poétique aussi par ses textes, c'est l'idée en tout cas, de pouvoir porter en tout cas
oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, c'est l'idée de porter son héritage, mais aussi de d'écrire nos propres voix. Et c'est une personnalité qui le permet vraiment, qui de son vivant a beaucoup aidé aussi les jeunes, qui a accompagné avec sa maison de disques d'autres artistes compositrices. Et nous, on a envie de s'inscrire dans cette lignée-là. Donc à la fois, évidemment, de faire revivre son héritage, mais aussi de créer nos propres voix.
Alors, vous sortez de scène, vous avez joué aujourd'hui, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Donc on revient un petit peu ici au Chénon. Comment ça s'est passé, déjà, cette rencontre? Et puis la spécificité de ce festival, qui est aussi un festival avec des professionnels, qui viennent, on le disait tout à l'heure avec Kevin Dubulet, faire leur marché un petit peu, justement. Est-ce qu'il y a une pression en plus supplémentaire quand on vient jouer au Chénon? Et comment ça s'est passé?
Oui, oui, c'est sûr, il y a une... comment dirais-je, une spécificité en tout cas pour nous quand on est sur scène d'avoir un public que de profs, quasiment deux tiers de professionnels. Souvent c'est des salles qui vont être plus sur la réserve, qui voilà, vont moins se lâcher ou se permettre d'être émus de façon totale, ou voilà, mais ça se comprend aussi. Mais ça s'est très bien passé pour nous sur les deux représentations, parce qu'on a quand même senti une grande chaleur et puis voilà, on a été très bien accueillis, donc voilà.
Est-ce que vous avez déjà des retours en direct de programmateurs qui sont...
Oui, on a eu un bruit qui court, qu'on avait déjà quelques dates. Voilà.
Parce que c'est le but aussi quand on vient au Chénon.
Exactement. Oui, oui, et puis on a la chance, enfin, après Avignon, on va beaucoup jouer cette saison. On a environ 60 dates et on a vraiment envie que, évidemment, que ça continue. Et de pouvoir porter les textes d'Anne Sylvestre et puis ce spectacle encore longtemps sur les routes.
pas de projet à côté. Du coup, vous faites vraiment vivre que ce projet toutes les deux là.
Alors si, si, on a si. Des projets à côté. En fait, moi, j'ai une compagnie de théâtre.
D'accord.
Je viens vraiment du théâtre au départ. La compagnie s'appelle Les Louves à minuit. On est basé à Valenciennes.
Okay.
Et justement, on travaille sur un prochain spectacle qui verra le jour en février prochain à Valenciennes. C'est une adaptation de Thérèse et Isabelle de Violette Le Duc, qui est une autrice contemporaine de Simone de Beauvoir.
Okay.
Et là, moi, je serai juste à la mise en scène. Et Lucie joue dedans un personnage de pianiste surveillante. Voilà. Mais il y a d'autres actrices. Moi, je ne serai pas sur scène. Et elles sont trois sur scène, trois actrices.
Donc, spectacle qui est en finition, c'est ça, hein, qui est pas
qui est au même au début du travail. On n'a pas encore commencé les répétitions.
D'accord. Donc, on peut l'espérer voir au Chénon d'ici 2 ans.
Voilà, exactement.
C'est ça.
Tout
donc,
à fait.
D'ici dans 2 ans pour en parler.
Exactement.
Okay, ça roule. Eh bien, merci.
Ouais, juste, on n'a pas pu voir le spectacle parce que vous l'avez joué. Il y a des dates que vous pouvez nous donner là, à venir ou,
Alors oui, on a des dates. Toutes nos dates sont sur le site leslouvesaminuit.com. Et les prochaines dates, c'est 8, 9, 10, 11, 12 octobre en région Bretagne.
Et ce dimanche, au Petit Ivry Cabaret. Pour les Parisiens aux régions parisiennes.
Voilà, qui est un week-end spécial Anne-Sylvestre au PIC, Petit Ivry Cabaret.
Okay.
On joue à 18h dimanche.
Eh bien, parfait. Eh ben,
super.
Vous faites un super enchaînement, on va parler cabaret justement,
ouais.
Juste après. Voilà.
Voilà.
Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci Marie.
Et bonne chance à vous.
Et merci Lucie. Et puis bah, bonne fin de festival. Je ne sais pas si vous restez un petit peu ou.
On reste ce soir, on va faire un peu la fête.
Eh bien, profitez bien. Bah ouais, carrément. Profitez bien en tout cas. Merci d'avoir été sur notre radio, c'était un plaisir.
Merci.
On se fait une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Eh bien, on va écouter Daoud qui nous chante du Fiki Singers.
Et oh,
ce sera vendredi à 18h, ce sera au 6 par 4. 8€ l'entrée.
Parfait.
Un trompettiste franco-marocain qui mêle jazz et inspiration hip-hop.
Eh bien, on écoute.
Je vous laisse avec Daoud.
Le Chaînon Manquant, 33e édition ici en direct du Square de Boston à Laval. Amis auditeurs, j'espère que vous allez bien. On continue de découvrir un petit peu la programmation. On a la chance de recevoir la compagnie Alcaraz avec qui va nous présenter le spectacle La Barbichette et le Cabaret. On a Jérôme Marin avec nous, L'Amulette. Bonsoir Jérôme, L'Amulette, bonsoir.
Bonsoir.
On a Cathy Quartz.
Bonsoir.
Et on a Jeanne Plante aussi avec nous.
Bonsoir.
Tous les quatre viennent représenter la compagnie et le spectacle qui a déjà joué, donc qui jouera.
C'est la première ce soir.
La première ce soir.
Et la seule représentation pour le chaînon.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, ce sera ce soir et c'est sous le chapiteau, c'est ça ? Oui. Donc, si vous voulez venir le voir, c'est ce soir. Venez, c'est 21h15.
Voilà, pour qu'il se dépêche.
Exactement. Alors, est-ce qu'on parle de ce cabaret ? Alors, cabaret La Barbichette, ou La Barbichette Cabaret. Pourquoi La Barbichette ? Parce que nous, on en a, des barbichettes, mais vous, non.
Pourquoi La Barbichette ? C'est un hommage à Jean-Yann, que j'aime beaucoup comme artiste. J'avais déjà travaillé sur les chansons de Jean-Yann et d'autres extraits de films, et là, ce nom est sorti d'un des films de Jean-Yann qui s'appelle La Barbichette. Je te tiens, tu me tiens, par La Barbichette, voilà. Tout simplement. Ça n'a rien à voir avec Afida Turner, je précise. Mais voilà, c'est plutôt un petit clin d'œil à Jean-Yann, encore une fois, qui pour moi représente l'esprit du cabaret, du musical des années 70, avec évidemment d'autres grandes figures tutélaires. Mais voilà, je trouve qu'il a mis en image ces formes de cabaret que moi j'aime bien. En tout cas, dans ses films, il y a toujours un peu de cabaret, donc... J'aime beaucoup.
Alors, justement, la forme de cabaret que tu aimes bien, c'est quoi en fait ? Alors, est-ce qu'il y a plusieurs cabarets ? Est-ce qu'il y a des codes dans les cabarets ? Est-ce que...
Alors maintenant, vous savez que les choses se réglementent, comme partout en France, à un moment donné, il faut qu'on rentre dans des cases. Et justement, là, cette case-là est une non-case, puisqu'on dit que c'est du cabaret indisciplinaire, donc. Ou indiscipliné, je ne sais pas, pour moi c'est plutôt indiscipliné plutôt qu'indiscipliné. Voilà, c'est un cabaret qui n'est pas dans les cases et qui réinvente les formes du cabaret en passant par une certaine tradition du cabaret du début du XXe siècle en France, l'esprit du cabaret berlinois et le musical très foisonnant et très coloré et très queer, voire interlope des années 70.
D'accord, donc ça c'est... Est-ce que c'est le chemin de Monsieur K qui a amené ce cabaret-là, je...
Non, Monsieur K, il vient du... Monsieur K, il est né de Kurt Weill et de Bertolt Brecht, donc c'est plutôt un parcours classique. Après, j'ai eu la chance de travailler dans une grande maison parisienne dont je tairai le nom. Voilà, qui m'a permis de démarrer un autre travail de cabaret. Et travailler avec des créatures, parce que c'est le point de départ en fait entre ce qu'on disait avant, cabaret entre guillemets traditionnel, cabaret transformiste ou les musicals, et cette forme de cabaret où il y a des créatures. Et je me réjouis vraiment, et je le dis encore et encore, que cette forme de cabaret soit ouverte aux femmes. Elles sont trois avec moi. Je vais peut-être les laisser parler parce que je crois qu'elles ont plein de choses à dire aussi sur cette forme de cabaret qui est un cabaret fourre-tout, un cabaret précis et un cabaret foisonnant.
Alors, ben, on vous laisse la parole. Comment vous, chacune, vous trouvez votre place dans ce cabaret-là ? Est-ce qu'il y a une création ? Est-ce qu'on vous impose des choses ? Est-ce que vous êtes totalement libre de ce que vous faites ?
Alors on est totalement libre de ce qu'on fait, mais tout ce qu'on propose, c'est vu par un œil très bienveillant, donc celui de Monsieur K. Oui, il me fait une petite tape en mime, mais tout va bien. Non, on propose, on est tous force de proposition et on est vraiment là pour expérimenter. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un cabaret aussi pour les amoureux des faces B. Et là, on va vraiment chercher plus de la texture musicale et de l'expérimentation aussi dans ce sens-là. On va faire de la beauté plutôt que du connu, même si on en fait aussi, mais différemment.
Donc chacun amène son personnage, ou alors je sais pas comment vous... Ouais, c'est,
on peut oui, ça. Alors, bon, moi, donc, je suis Cathy Quartz. Je suis donc dans le cabaret de Monsieur K depuis maintenant 2 ans. Ça commence à dater.
Oui, avec le cabaret Le Secret.
Oui, forme voilà, précédente. C'est ça. Oui, c'était la forme précédente. Mais ce sera toujours Monsieur K. Cathy.
Vous serez toujours Cathy Quartz.
Voilà, hein, je serai toujours ça. Moi-même. Et du coup, moi, je suis. Je sais pas quoi vous dire, je suis moi, je propose des chansons qui peuvent enchanter les gens, j'aime beaucoup les surprendre.
Alors tout est écrit d'avance ?
Non, rien n'est écrit d'avance, c'est vraiment la surprise. Non, mais pour être un petit peu sérieux sur la forme, moi ce que j'aime c'est de proposer à des artistes qui ont plutôt un parcours précis, en tout cas un chemin de discipline artistique relativement précis, de venir faire des bêtises avec moi et de déplacer leur travail. Et je vais tendre le micro à Jeanne Plante, qui est une chanteuse, qui a un parcours de chansons françaises précis et qui, elle aussi, a décalé totalement son travail en venant au cabaret, comme Cathy Quartz, qui a un autre nom de scène dans le théâtre français, mais...
Oui, donc moi c'est Jeanne Plante et en effet avant j'étais une chanteuse traditionnelle qui ne faisait pas de bêtises, enfin un petit peu, des petites fantaisies. Et puis maintenant je fais beaucoup de bêtises avec Monsieur K et je suis coincée, je ne peux plus revenir en arrière, je ne peux plus faire de la chanson sérieuse, je suis foutue à cause de lui. Ça y est, je suis tombée dans la connerie la plus totale et la plus profonde et je ne peux plus revenir à la surface. Non, et la poésie bien sûr, et la grandeur bien sûr, et la beauté, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à cette liberté-là et puis au côté collectif de cette expérience, on a du mal à revenir à un parcours très égocentré, très, très traditionnel.
Ça allait être ma question justement, voilà ce truc. Est-ce qu'on prend plaisir à faire des bêtises avec Monsieur K ?
Énormément. C'est comme un bac à sable, mais pour adultes, évidemment, et sans enfants.
Oui, enfin les enfants avec du sel et bien cuit, 30 minutes au four à 180 et c'est parfait.
Alors, moi ça me donne super envie de venir vous voir. Est-ce que vous nous autorisez en tant que public à faire des bêtises avec vous ?
Bien sûr, c'est même recommandé.
Et du coup, dans tout ce que vous faites, il y a une part d'impro, il y a des choses qui se renouvellent sur selon les cabarets, selon le public que vous avez, vous interagissez avec eux ?
Ce n'est jamais le même spectacle. Ce ne sont jamais les mêmes artistes. Et tout est on est comme au cirque, on a à peine un filet en dessous le trapèze et on prend le trapèze et on saute dans l'air et on y va. Il y a quand même une chose très importante dans le travail qu'on fait, c'est vraiment la relation avec le public aussi. Parce que déjà, nous, on est quasiment sur scène, loge à vue. Bon, ce soir, on est un peu contraint, donc ça sera semi-loge à vue. Mais on est déjà avec le public dès qu'il arrive. Voilà, c'est le public est le dernier partenaire de scène et il est très important pour nous, même si des fois il est un peu taquin qu'il faut le.
Ouais. On va vous lâcher parce que j'ai vu Jeanne qui regardait son portable. Le numérique n'a pas de place dans votre spectacle ?
C'est-à-dire ?
Le portable. J'ai cru lire qu'on devait les laisser sur certains spectacles. On les laissait à la porte.
Ah, c'est. Dans les exploitations, quand on fait l'exploitation à Paris, dans le lieu où on fait les choses régulièrement, moi je préfère que les gens laissent leur portable au vestiaire parce que l'important c'est surtout de vivre les choses et ça a un peu d'intérêt de filmer, mais enfin on est là pour vivre des choses réelles et comme c'est des choses éphémères, vaut mieux les vivre, vaut mieux regarder avec nos yeux qu'un écran devant, c'est plus intéressant quand même.
Eh bien, chers auditeurs, on vous invite à venir vivre ce cabaret. C'est ce soir, c'est 21h15, c'est au Chapiteau. Eh bien, à tout à l'heure. Merci beaucoup.
Ah, Fidesé.
Merci.
Eh bien, nous, on va se retrouver. On écoute une petite parenthèse musicale, François ?
Oui, alors on va faire une petite parenthèse musicale et on va écouter... Est-ce qu'on
entend...
Ah, on m'entend pas. On va faire une petite parenthèse musicale et on va écouter Petite Antonine, ma petite, qui passe jeudi, donc jeudi soir à 21h30 au village, ici, Square de Boston. Voilà, c'est un chant traditionnel poitevin. Voilà, donc écoutons. J'ai hâte de découvrir du chant traditionnel poitevin. Je sais pas, je connais pas, donc c'est maintenant. De retour ici au Chaînon Manquant, direct du Square de Boston à Laval. J'espère que vous allez bien. On termine malheureusement cette émission. Un peu trop court d'être ici 8 heures. On aimerait bien rester un petit peu plus longtemps avec Stéphane. Et on a la chance de terminer avec Hugues Duchesne. Bonsoir Hugues.
Bonsoir.
On va parler du spectacle Abolition des privilèges. Donc vous avez joué tout à l'heure. Vous rejouez à 21h, c'est ça?
Absolument.
Voilà.
Donc il faut qu'on finisse à l'heure.
On finit à l'heure parce que Hugues doit partir à 20h. Donc on a 10 minutes pour découvrir un petit peu ce spectacle. Et puis voilà, vous donnez peut-être envie de venir nous rejoindre à 21h pour le voir.
Alors, on va parler de la genèse de ce spectacle, en fait. Ouais. D'où est née l'histoire ? Si j'ai un petit peu lu ce qui s'était passé.
Il y a 2 ans et quelques mois, je jouais ma précédente pièce de théâtre et j'ai eu la chance d'avoir un auteur de roman historique qui m'a donné son roman, comme ça, qui venait de paraître dans l'année. Il m'a dit, c'est un peu comme vous, moi j'avais écrit une pièce sur la politique française, mais il m'a dit, sauf que là ça se passe en 1789 et voilà, je on fait des parallèles avec aujourd'hui, mais vraiment, mon roman, il est sur la nuit du 4 août 1789, donc qui est connue, qu'on voit au collège et au lycée, pour être la nuit de l'abolition des privilèges, le moment où les nobles, le clergé, ont aboli ce qui faisait leur... c'était le reliquat de la féodalité, c'est-à-dire qu'ils ne payaient pas d'impôts la plupart du temps, ou très très peu, et puis ils avaient droit à des droits que n'avait pas ensuite le reste du royaume, le tiers-état. Par exemple, ils avaient le droit de chasse, donc il faut imaginer que voilà, quand il y a eu l'abolition des privilèges, quelques jours après, là, le royaume entier s'est mis à aller chercher des lapins partout et tuer des cerfs, ils se sont dit c'est la révolution.
C'est clair.
Et donc, j'ai lu le roman, j'ai trouvé ça formidable, je me suis dit je vais l'adapter avec un acteur.
Tu l'as lu tout de suite ?
Ouais, je l'ai lu tout de suite. J'ai eu l'idée assez vite, je lui ai proposé à l'auteur dans 3-4 mois plus tard.
Ah oui, donc ça a été très vite.
Voilà, et le spectacle a été créé en mars dernier, donc effectivement. Un an et demi pour concevoir un spectacle, trouver les subventions et le créer, c'est assez rapide.
Quand vous avez travaillé avec l'auteur, justement, alors du coup, vous le recontactez, c'est ça ? Et après, comment se fait ce travail
J'ai pris le roman et je l'ai adapté. Donc vraiment, j'ai coupé dedans, j'ai fait en sorte de réduire la narration vraiment à ce qui faisait avancer le récit, avancer pour que ce soit le plus compact possible. À côté de ça, je me suis dit assez vite, je vais pas l'adapter avec 15-20 acteurs comme l'a fait par exemple pour parler de la Révolution française Joël Pomerat il y a quelques années avec un spectacle assez connu qui s'est appelé Ça ira fin de Louis. Là, je me suis dit, je vais prendre un seul acteur et je vais le mettre au milieu des spectateurs. Et les spectateurs, ils vont figurer ce que c'est que l'Assemblée nationale à ce moment-là, c'est-à-dire d'un côté clergé, d'un côté tiers état et de l'autre côté noblesse. Ils vont figurer cette tripartition de la population française et donc on n'aura pas besoin d'avoir des perruques, on n'aura pas besoin d'être dans un film d'époque parce qu'en fait on dira maintenant c'est là maintenant on est dans la salle des états généraux à Versailles en 1789 et il se passe ça et ensuite il se passe ça et là c'est incroyable mais on vient de mettre à bas la féodalité et c'est le bouleversement politique d'ampleur qui m'intéresse.
Spectacle politique, on est bien d'accord?
C'est ce qui m'intéresse.
Vous aviez écrit un livre justement avant, c'est ça, déjà sur la politique, ce que vous disiez.
Un livre.
Ouais. Enfin, non, une pièce, un spectacle.
Ouais. La pièce enfin, d'avant, ouais. Effectivement, elle parlait des années Macron, elle parlait de ce qui s'était passé de politiquement intéressant de 2016 au moment où il a commencé à se lancer dans la course présidentielle jusqu'à 2022. Et c'était un spectacle un peu compliqué parce que en fait chaque année j'écrivais la suite. Donc j'ai commencé en 2017 à écrire le spectacle, ça durait une heure et on s'est dit on va aller jusqu'en 2022 et en 2022 ça durera 6 heures en tout, donc de 2016 à 2022 et comme un zapping théâtral qui ne s'arrêtait jamais et voilà. Et entre évidemment la crise des gilets jaunes, le Covid et bien d'autres crises, l'affaire Benalla ou des choses comme ça qui ont émergé au moment où on présentait le spectacle, il y a eu plein de choses à raconter et ça a été assez passionnant.
Alors, c'est plus facile d'écrire sur une histoire récente ou sur le passé pour un spectacle?
Moi ce qui m'intéresse c'est que c'est la politique dans sa plus... la globalité de la politique. La politique, c'est à la fois les affaires politiciennes, tout petit, pourquoi quelqu'un comme ça se retrouve élu alors que quelqu'un d'autre aurait pu être nommé. Voilà, ces petites histoires. La nomination de Michel Barnier ou tout ce qui se passe en ce moment, voilà, c'est du politicien. Et puis, le politique, au sens le plus large, c'est toute l'organisation des hommes et des femmes qui sont sur cette terre. Et le ping-pong qui m'intéresse, c'est l'intime et le politique. Pourquoi quelqu'un grandit, pense cela, quelqu'un d'autre ne pense pas la même chose? Pourquoi ma mère, mon père, parce que j'ai rencontré une personne à un moment, parce que j'ai vu quelque chose qui m'a transformé. La petite et la grande histoire, c'est ça qui m'intéresse. Et ça peut se passer en 1789 comme ça peut se passer en 2024.
Dans votre écriture, vous voulez juste décrire des faits ou alors plutôt avoir un engagement derrière, avoir une réflexion avec le public, avoir un engagement militant, politisé? Vous voyez ce que je veux dire?
J'essaie de ne pas faire des spectacles qui sont militants. Moi, je l'ai été militant dans ma vie. Il y a un moment où j'ai été au mouvement des jeunes socialistes. Mon but n'est pas de... faire des spectacles de MJS pour le MJS. Mon but c'est de parler à un maximum de monde et je suis ravi quand quelqu'un vient voir une de mes pièces et ne pense pas comme moi et me dit franchement je suis pas d'accord avec vous politiquement, mais qu'est-ce que c'est bien quand même comme pièce. Okay. Parce que voilà, effectivement c'est plus grand que ça et moi le théâtre c'est fait pour vivre ensemble.
Ok, mais il y a une ouverture pour le débat, enfin, c'est ouvrir le débat aussi.
Bien sûr, il y a des prises de, prises de parti politique dans une pièce de théâtre, mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y a deux personnes qui ne vont pas être d'accord. Dans le spectacle que je joue, l'abolition des privilèges, à un moment j'arrive sur le plateau et je commence à causer avec l'acteur qui jouait jusque-là pendant 50 minutes et je commence à lui. Et on commence à avoir une discussion sur ce qu'est un privilège aujourd'hui, ce qu'on entend par privilège. Et en fait on se rend compte qu'on ne fait pas le même spectacle, que lui il entend sur 1789 des choses que moi je n'entends pas du tout.
Ouais.
Et il y a débat. Et c'est là que ça devient intéressant, je pense, j'espère.
Ça veut dire, tout à l'heure, vous disiez, vous êtes, le comédien, dans une arène, ça représente l'Assemblée avec les différents belligérants. Et c'est interactif comme spectacle ?
Non, c'est pas interactif dans le sens où on demande pas aux gens, que ce soit d'applaudir, d'avoir des réactions. Voilà. Au mieux, un moment où on prend une personne dans le public et on fait comme si on la poudrait un petit peu, comme si c'était une personne noble, voilà, de la noblesse. Mais c'est vraiment, c'est pas grand chose. Le but n'est pas de faire un spectacle différent selon les spectateurs qui sont là ou pas là ce soir-là. C'est assez différent.
On parlait tout à l'heure avec Kevin Duvillel, du coup, qui est programmateur du festival, un petit peu justement de l'engagement politique justement derrière le festival, et je lui posais la question de ses compagnies qui peut-être écrivaient un peu plus des choses aussi politisées, engagées ou autres, et il nous répondait qu'il y avait aussi ce silence. Il y avait aussi de plus en plus de compagnies où on avait un silence, la parole était compliquée. Ça, vous pouvez l'entendre. Enfin, vous...
Ouais, effectivement. Et effectivement, il y a un an, par exemple, on me proposait le spectacle qui s'appelle L'abolition des privilèges. Il y a des gens que j'ai su qui, une scène nationale, proposait à des petites mairies de spectacle. Et il y a des gens qui avaient tendance à dire abolition des privilèges, oh là là, je suis pas sûr. Alors qu'on leur disait que c'était un spectacle sur 1789. On est loin d'aujourd'hui. Bon, en réalité, vous vous rendez compte que pas tant que ça, parce que bien sûr, moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Mais n'empêche que, oui, il y a une frilosité de la part parfois des élus aujourd'hui. Il faut la comprendre, il faut aussi, d'une certaine manière, la combattre. Je peux comprendre que les élus soient parfois fatigués par des spectacles qui sont univoques. Je ne fais pas des spectacles univoques, donc je ne vois pas en quoi ça me concernerait.
Quelle matière on a quand on écrit sur la politique, avec tout ce qui se passe, notamment en ce moment, j'imagine que vous aimeriez écrire 10 pièces à l'année, non? Enfin, j'imagine qu'il y a plein de choses qui doivent foisonner.
Oui.
Non, mais j'imagine pas.
Oui, bien sûr. Mais en ce moment, je suis très heureux de ne plus faire des spectacles sur les années Macron parce que ça devient trop dense. Voilà. S'il y a une chose qui se raconte très, très clairement depuis... une vingtaine d'années, c'est le glissement petit à petit à droite voilà, et l'extrême droite qui gagne des parts de marché électoral, comme on dirait si on voyait que du marché partout. Mais c'est clair qu'en ce moment, je suis heureux de faire un spectacle qui parle d'autre chose que la politique française, là, maintenant, tout de suite, et devoir tout le temps écrire la suite. Voilà, je me suis un peu fatigué à faire ça et voilà. Ouais.
Vous échangez un peu avec le public, là, vous avez échangé un peu cet après-midi ?
J'ai
échangé un peu avec le public ?
Non, pas du tout, parce qu'on a eu un problème technique tout à l'heure, pendant le spectacle, et il faut régler ce problème technique pour avoir une meilleure représentation à 21h.
Ok, on va pas vous embêter plus longtemps, parce que j'imagine que 21h, il est 20h, donc ouais. Du coup, le temps que vous alliez vous préparer, c'est un vrai plaisir de vous recevoir.
Merci beaucoup.
Bon spectacle à vous, en tout cas ce soir.
C'est où ce soir à 21h? On n'a pas dit.
C'est à la SCOMAM.
21h à la SCOMAM.
Juste une dernière question, vous restez un petit peu au festival, vous partez directement ou vous restez un petit peu à regarder d'autres spectacles?
Non, mais pareil, Kermesse, je l'ai vu et qui jouait hier sur le spectacle avec la chenille et les 500 personnes qui sont montées sur le plateau. Je trouve que c'est un spectacle formidable, je les aime beaucoup. Je suis très heureux d'avoir vu qu'ils étaient comme ça à Laval et je leur souhaite de se montrer à plus de monde possible.
Ok, sympa pour les copains. Merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup.
Et puis bon spectacle.
Au revoir.
Au revoir, merci. Eh ben on va clôturer tranquillement. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Voilà,
Hugues Duchesne, donc du coup pour l'abolition des privilèges, qui joue ce soir à la SCOMAM à 21h, on le rappelle.
Nous on est pour l'abolition des privilèges.
Ah bah oui, on est
20h, on nous a dit 20h, donc c'est 20h.
Ah bah nous on est comme ça, on n'aime pas dépasser d'une minute, tu sais bien, on est comme millimétré, ça rigole pas. Ça c'est l'école Joël, on appelle ça.
Tout à fait.
Merci Stéphane, du coup, c'est un bonheur. On rappelle peut-être un petit peu donc toute la programmation jusqu'à dimanche. Hein, y a plein de choses, plein de spectacles.
Alors, venez ici au Square de Boston, puisque de toute façon vous aurez accès à toute la programmation.
Ouais.
Vous pourrez boire un petit verre avec. D'ailleurs, c'est un endroit sympa aussi parce qu'on y rencontre les artistes. En fait.
Oui, carrément. On peut boire un verre. En fait, tout le monde peut rentrer. C'est ouvert à tout le monde. Exactement. Et en fait, on peut boire un verre, rencontrer les artistes, des programmateurs, échanger, discuter, refaire le monde. Enfin voilà, on peut faire plein de choses jusqu'à très tard et voir des beaux spectacles surtout. C'est ça qui est important. On remercie toutes les compagnies qu'on a reçues. On remercie bien sûr Kevin et Florence d'avoir été avec nous. On remercie beaucoup Margot d'avoir été à la technique.
Ah oui, merci Margot.
Merci vraiment Margot. Stéphane, je te remercie, c'est encore un bonheur. On se revoit. On dit à chaque fois aux trois éléphants, ça fait loin. Mais...
Oui, mais on se revoit quand même.
On se revoit quand même. Merci. Et puis belle soirée sur l'autre radio. Je ne sais pas ce qu'il y a après derrière sur l'autre radio, mais en tout cas, on va écouter un titre. Je te laisse le présenter, Stéphane.
C'est Fleuve. Et qui...
Ça coule de source.
Loudia, un des porte-étendards de la nouvelle musique bretonne. Oh. Bah écoutez, on va découvrir ce que c'est.
Alors après de la musique poitevin, poitevine, on écoute de la musique bretonne, et on enchaîne dans les régions.
Ils seront jeudi à minuit sur le village, ici. Village de Boston.
Voilà. Bon, voilà.
Salut à tous.
Ah bah ouais, à bientôt.
À bientôt.
Ciao. Bonne soirée.